Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Bonjour.
Yo.
C'est brusque.
C'est la rentrée.
Mais non, c'est pas la rentrée et c'est pas la fin des vacances. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'est pas la fin des vacances ni pour les petits ni pour les grands. Ouais.
Ah bon?
Bah non.
Comment ça?
Bah pourquoi pas?
Les vacances éternelles.
Voilà.
Ouais. Moi, j'étais en vacances et je suis rentrée. Hein. La preuve, c'est qu'on est derrière ce studio chaud, prêt à faire une année de nouvelle radio.
Voilà.
Ok. Bon.
Et que ça fait deux mois.
T'es rentrée dans le studio, quoi, c'est ça?
Je suis rentrée dans le studio.
C'est le studio qui reconfigure.
Je suis rentrée dans ma peau d'animatrice.
On n'entend pas bien.
Ah bon?
Comment tu t'appelles?
Jean-Charles.
Gobolino, chat de sorcière.
Gobolino, chat de sorcière.
Tu peux monter un peu son...
Mais oui, je monte. Mais moi, je l'entends bien.
Et salut, toi.
Ah, salut.
Et toi, c'est comment?
Moi, c'est Bernard.
Voilà, Bernard.
Tout simplement.
Moi, c'est Ginette.
Et Ginette.
Okay.
Ginette, Bernard.
Et peut-être il est temps de dire bonjour aux autres aussi.
Bonjour aux autres.
On se flatte d'être ensemble, mais bon.
Et bah ouais, salut à tous.
Salut à tous.
Voilà, une nouvelle année de Vacarme en Réunion. On est trop contents de reprendre la radio.
Tout à fait.
Cette quatrième ou cinquième année, je ne sais jamais exactement,
plus.
Sur Radio Campus, le dimanche à 16h, on sera là toutes les semaines, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, et on continuera à chroniquer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parler de ce qui se passe.
Chroniquer, c'est trop radiophonique.
Ça fait trop professionnel, c'est ça, ça te dérange.
Ça fait trop 92.2, quoi. Ouais.
92.2,
ouais. Bah non, mais quoi, alors on va parler de ce qui se passe, dans la rue, de ce qui se passe...
De ce qui nous traverse, de ce qu'on traverse.
Dans nos corps, entre les gens, de tout ce qui résiste.
Voilà.
Ouais.
De tout ce qui résiste et de tout ce qui se lève.
Ouais, les choses qui plient mais qui ne cassent pas.
Et qui font plier, qui ne se cassent pas non plus. Non.
En tout cas, on va commencer par faire un passage en revue un petit peu de ce qui s'annonce, parce que comme tous les ans, et chaque révolutionnaire, chaque personne qui est dans la rue se pose tous les mois de juin, la question, comment se fait-il que pendant l'été, c'est aussi les vacances du mouvement social? Bon, voilà, c'est une question auquel on est nombreux à s'être confrontés, et pourtant elle n'est pas résolue, et tous, autant qu'on est, on part quand même en vacances.
Pourquoi finalement, à un moment pendant l'été, il n'y a plus effectivement d'occupation de la rue, quoi, c'est ça que tu veux dire?
Pourquoi
qu'une occupation en sandales et en monoeil, quoi.
Ouais, c'est ça, on sait que l'année dernière, c'est quand même ça qui a brisé le mouvement contre la loi travail. Cette année encore, alors que Macron venait d'être président, il y avait plein de choses à faire, tout le monde part quand même en vacances, nous y compris. Donc, je sais pas.
C'est le temps du repos, il y a quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a besoin d'un moment où on se repose de tout ça aussi, quoi.
Peut-être qu'il y a trop de chaleur. Peut-être que c'est parce que quand le reste de l'année, là, il fait froid, on a besoin de... Non, on a besoin de sortir dans la rue, de bouger, de faire des bras zéro.
C'est pas vrai, parce que c'est au printemps qu'il y a le plus de mouvements en général.
En général.
Par rapport à la montée de sève.
Voilà, c'est assez attendu en fin de compte.
Ouais, finalement.
Sortir de l'hiver.
Ouais. Bon, est-ce que tu veux nous donner le déroulé un peu de cette émission? Parce que finalement, moi, je l'ai oublié. Et je crois que je vais avoir ton pendule aussi.
Oui, je crois.
Ouais, cette année, sous le signe de...
L'humour.
De l'humour et de l'improvisation, je rajouterai avec vous aujourd'hui.
Explique-nous, Ginette. C'est ça, Ginette, tu l'as dit.
Ouais.
Et comment tu penses que c'est l'humour qui doit l'emporter cette année?
Ben, en fait, j'ai écouté la radio cet été et je me suis rendu compte que quand c'était rigolo, j'écoutais plus. Voilà.
D'où, en fait,
une démonstration expérimentale.
Assidu de rire et chanson.
Non, pas du tout.
D'où cette petite musique joyeuse d'enfant, quoi. Qui rentre.
Ouais, voilà, exactement.
Très bien. Okay.
Non, mais bon, on va commencer notre carrière de rigolo, mais pour l'instant, on va continuer à raconter des trucs un peu sérieux, parce que c'est tout un apprentissage de réussir à être drôle.
Il faut être drôle et austère à la fois. Je pense que
drôle et austère.
On n'y arrivera jamais.
En tout cas, aujourd'hui, moi, j'avais envie qu'on parle du 12 septembre, mm-hmm. qui est la manif de rentrée contre les ordonnances de la loi travail mm-hmm. qui viennent d'être passées.
La rentrée sociale.
Ouais, une sorte de rentrée sociale. Puis moi, j'avais quelques petites choses à vous raconter à ce propos. Mm-hmm. Ensuite, on pourrait parler de Fribourg.
Ouais, de Freiburg.
Mmh. Freiburg, je n'y arrive jamais.
Voilà. Il y a Fribourg en Suisse et Freiburg en Allemagne.
Voilà, où il y a des.
Donc là, c'est le Freiburg en Allemagne. Donc.
Là, c'est sur Freiburg en Allemagne et mmh. sur un centre social. Enfin, bon, la suite comment dire, de la réaction populaire et joyeuse au Hambourg, au G20 de Hambourg. Et c'est les suites plutôt, plutôt de policières et tristes voilà, qui se déroulent à Freiburg.
Là, puis une autre actualité triste, c'est qu'on va parler. Du rassemblement qui se tient en ce moment même à Bar-le-Duc,
ouais.
contre les violences qui ont été commises sur des manifestants le 15 août. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Puis on finira par vous faire un tour d'horizon
de la rentrée sociale
qu'est-ce
locale.
Qu'est-ce qui se passe aux Lompières, ouais. qu'est-ce qui se passe aux tanneries, qu'est-ce qui se passe pour les migrants, etc. Quoi. Voilà. On commence par le 12 septembre, ça vous va ?
Mais allez, d'accord, très bien.
Voilà, bon bah tout le monde le sait, puisque c'est la rentrée aussi pour les journaux, et que depuis 4 jours, ils nous bombardent d'un milliard d'informations là-dessus. Mais le 12 septembre, il y a une manifestation organisée par la CGT contre les ordonnances qui ont été passées cet été, qui sont en train de passer, pardon, je dis n'importe quoi, qui sont en train de passer, mais qui sont annoncées depuis cet été. Mm-hmm. Donc des ordonnances qui visent à modifier le code du travail.
Dans la continuité de la loi El Khomri.
Tout à fait. Donc les ordonnances, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas si simple. Mm-hmm. Moi, je ne sais pas avec précision. Ce que j'en comprends, c'est que c'est une manière non classique de faire voter
Pour
des
le
lois,
dire,
de faire passer des lois.
Pour le dire assez vite, donc quand c'est en gros, c'est tu as le gouvernement qui fait une proposition à l'Assemblée, qui lui dit bah, « écoutez, j'ai des lois ». Je voudrais pas que ça soit débattu à l'Assemblée, on n'a pas le temps pour ça. Donc est-ce que vous me donnez le droit, donc le gouvernement, est-ce que vous donnez le droit au gouvernement d'accorder en fait ce qu'ils appellent, en fait, donc on appelle ça des ordonnances, mais c'est des décrets-lois quoi. Donc c'est des décrets qui font loi et qui s'imposent, comme ça c'est le
donc
terme.
C'est de passer outre.
C'est de passer outre, donc en fait on discute pas, l'Assemblée ne va pas délibérer. Ils vont pas discuter en fait des lois qui sont choisies. Et donc donc l'Assemblée, donc là qui est majoritairement composée de macronistes, a dit bah oui ça va en fait, il y avait la majorité là-dessus. Et donc il y a pas mal de réformes de loi, donc qui réforment la loi du travail, qui ne seront même pas discutées en fait dans l'Assemblée.
Mais du coup c'est incroyable parce qu'on demande l'avis aux députés de se passer de quoi.
De se passer
est-ce que
de,
ça vous
de,
va
de,
si on demande pas votre
avis. En fait c'est genre en fait la question ne se pose pas en fait. Est-ce que donc là c'est dans la continuité en fait de la logique des logiques qui avaient été posées avec le gouvernement d'avant de Hollande avec les 49.3. C'est une autre forme en fait extra légale. C'est carrément ça. On est vraiment dans le droit d'exception. C'est juste en fait on s'assoit carrément sur le droit mais parce que c'est ordonné aussi par le droit. Donc c'est un truc complètement pas absurde mais bon ça ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà sur le sujet. C'est bien les lois en fait que le gouvernement de Hollande n'avait pas eu le temps en fait de faire passer et donc là il continue en fait il persiste et signe en fait sur le démantèlement des droits des travailleurs quoi.
Voilà donc moi j'ai entendu des bribes de ce que contenaient ces ordonnances à la radio mais mais pas là enfin moi je suis pas capable d'en parler dans leur totalité. Mais en gros, voilà, c'est les applications de ce que prévoyait la loi El Khomri. Du coup, un abaissement des pouvoirs syndicaux, une flexibilité supérieure pour l'embauche et pour les licenciements. Par exemple, j'ai entendu que maintenant, il serait possible de faire des ruptures conventionnelles collectives. Ce qui veut dire qu'en gros, il serait possible de contourner ce truc du plan social qui fait que quand une entreprise veut virer beaucoup de gens d'un coup, et ben elle est obligée de faire un plan social et de négocier avec les syndicats et de se justifier, etc.
L'obligation de reclassement des salariés, etc.
Ouais, voilà, exactement.
D'indemnisation.
Et du coup, il serait possible de contourner ça avec la mise en place d'une rupture conventionnelle collective, donc ce que connaissent un salarié quand il veut partir et que son patron est d'accord, ou quand son parti veut qu'il parte et qu'il est d'accord, il y a une rupture conventionnelle. Et ben voilà, maintenant on ferait ça collectivement, quoi. Donc si tout le monde. Et puis j'ai l'impression aussi que se dessine derrière ces ordonnances une nouvelle manière de repenser, alors ce que eux ils appellent le dialogue social, parce que il y a 30 ans on appelait encore la lutte des classes, et puisque aujourd'hui je sais pas, on pourrait appeler les formes de résistance collective sur le travail, je sais pas
sur
comment
la question
on dirait.
Du travail, ouais.
Mais en tout cas il y a beaucoup d'ordonnances qui concernent la représentation des salariés. et du coup qui sont mis en avant comme étant des formes de démocratisation de l'entreprise où chacun aurait son mot à dire, etc. Alors je sais pas précisément, il faudrait décortiquer ça bien.
Ouais.
Mais qui sont en fait une manière de supprimer les structures syndicales aussi, quoi.
Ouais, et puis il y a aussi ce truc là par rapport aux conventions, en fait, en fonction des corps de métier qui doit être laminé. Et l'idée, c'est pour les grandes sociétés, ça c'est un truc hyper important, c'est de faire des conventions sur mesure en fonction de l'entreprise. Les grandes entreprises auront leur propre convention. C'est plus du tout en fait une convention unitaire. Qui concerne tous les
corps, tout un tas de branches.
Voilà. Et ça aussi, ça, c'est un truc complètement fou, quoi. C'est, donc, il réinterroge le dialogue social selon les conditions de l'entreprise et celle qui les pose. Donc, c'est un pouvoir considérable en termes de négociation et donc de faire plier justement les salariés.
De toute façon, effectivement, s'ils se mettent à faire des ruptures conventionnelles collectives, c'est effectivement que je pense, en termes de syndicat, j'imagine que c'est une manière de se passer du pouvoir syndical au sein de l'entreprise. Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est les syndicats qui mènent les négociations sur les plans sociaux, etc. Et là, j'imagine que s'ils font des ruptures conventionnelles, c'est-à-dire que ça donne beaucoup plus d'armes au patronat pour pouvoir de lui-même négocier des sorties de crise en se passant des syndicats. Quoi.
C'est ça,
en fait. Un affaiblissement des...
Bah, il divise en fait la possibilité, en plus, des syndicats, justement, de se fédérer ou des choses comme ça.
Bien joué, Macron.
Tout ça va évidemment dans ce truc de flexibilité du travail.
Flexibilité du travail.
Que eux, ils présentent toujours plus comme étant une nouvelle liberté pour les individus.
Et il y a un truc qui a été aussi...
Et en capacité de réembaucher, d'aller vers
Dans la suite, dans la continuité, là, ce qui était dit par rapport aux conventions, la rupture de contrat conventionnel collectif, il y a un truc assez fou, c'est que maintenant, si tu peux avoir une démission, d'habitude, quand tu démissionnes d'une boîte, enfin, qu'importe, tu démissionnes, tu as un délai de carence. En gros, tu es un peu puni d'avoir quitté ton travail. Maintenant, quand tu fais une démission, tu es aussitôt indemnisé. C'est qu'ils ont intégré aussi la précarité. On peut choisir de partir de son taf. Demain, en fait, tu as ton chômage. Donc ça veut dire que waouh, c'est incroyable. Mais ça va vraiment dans le sens de la fragmentation du travail. C'est genre, ok, on vous donne le droit de partir.
La sortie, la rentrée.
Et de faciliter ça. Donc il y a quelque chose. Donc, bien entendu, ça entérine complètement la précarité et la discontinuité en continu pour les gens qui choisissent de continuer à travailler, bien sûr.
Vis-à-vis de tout ça.
Vis-à-vis de tout ça, les syndicats évidemment se bougent, mais pas tous. Il y a une espèce de... D'ailleurs, ça. Enfin bon, pour présenter déjà les faits, la CGT appelle le 12 septembre à être dans la rue. La France Insoumise appelle un rassemblement le 27 septembre. Solidaires appelle évidemment à suivre la CGT le 12 septembre, même si il y a des tensions entre la CGT et Solidaires, puisque par exemple il n'y a eu aucun intersyndical pour appeler cette journée du 12 septembre. Donc on voit que la CGT elle fait un peu les choses dans son coin. La CFDT est super contente d'avoir Macron.
La CGT qui était quand même le grand vainqueur du mouvement contre la loi travail, non?
Vainqueur, du moins, qui
est ressorti assez renforcé, non? De ce mouvement-là, c'est-à-dire qui a montré dans la rue
sa force.
Sa force et sa capacité à faire plier un peu le gouvernement.
Ça dépend toujours ce qu'on appelle une victoire quand même. Ils ont perdu ce bras de fer à un moment.
Avec le gouvernement, oui.
Mais
en termes de représentation de la force dans la rue, du bordel, de possibilités.
Et puis c'est un espèce de rappel par rapport aux heures glorieuses en fait de la CGT, etc. C'est-à-dire oui, on est encore capable de faire ça. Regardez.
Du coup, c'est peut-être un peu pour ça qu'ils se sentent pousser des ailes, et qu'ils appellent tout ça.
Mais si j'ai bien compris, vis-à-vis de la CGT, c'est que quoi qu'il en soit, au niveau du dialogue social, au niveau des revendications, ils sont prêts à baisser leur froc sur pas mal de choses. Enfin, ils sont, par rapport à ce que c'était il y a l'année dernière, contre la loi travail, et maintenant, ils ont vraiment transigé sur beaucoup d'exigences en comparaison. Donc,
C'était une manière aussi d'ouvrir le débat sur les syndicats, c'est que Force Ouvrière, qui était l'année dernière dans la rue avec la CGT, n'a pas appelé à venir le 12 septembre, et plus précisément, c'est Maï, je crois. Mm-hmm. Je ne sais jamais s'il s'appelle Jean-Paul ou Jean-Pierre. Enfin, le représentant, le secrétaire général de Force Ouvrière a appelé à ne pas y aller le 12 septembre dans la rue. Donc, il déclare ça. Ensuite, évidemment, il y a plein de syndicalistes sincèrement en colère contre tout ce qui se passe, qui disent « mais n'importe quoi, nous on ira avec la CGT, etc. » En tout cas, c'est le bordel vis-à-vis de Force Ouvrière.
Pourquoi ils appellent à ne pas y aller ?
Parce qu'ils disent qu'ils ont travaillé sur les ordonnances, qu'il y a eu un dialogue social possible avec le gouvernement de travail, et qu'en fait, il y a des mauvaises choses dans cette loi, mais il y a aussi des bonnes choses, et que voilà, quoi.
Mais ils étaient, en fait...
Ça, c'est vraiment ce que dit Maï.
Maï, c'est parce que dans les négociations avec la CFDT, etc., ils ont fait partie, en fait. C'est aussi ça, quoi.
Ouais. Mais du coup, ça met aussi en lumière, parce que voilà, depuis tout à l'heure, on se dit, voilà, le gros point faible de ces ordonnances, c'est la suppression de la force syndicale. Mais voilà, comme d'habitude, le rôle des syndicats est toujours un peu double et ambigu, quoi, puisque voilà, c'est la force de mobilisation et la force de discipline aussi des travailleurs, on le sait. Et voilà, là, par exemple, Mailly, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'il a fait face à la loi travail, tout d'un coup, dit, oh, bon, non, finalement, ça nous va, cette loi.
Bah.
On ne sait pas quelle tractation secrète, enfin secrète, pas secrète dans le sens qu'on ne le saurait pas, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est leur rapport propre en fait entre tous ces gens, quels intérêts personnels ils ont à jouer dans tout ça.
Quelle stratégie. Ouais. Mais bon,
c'est un peu écœurant.
Ça surligne bien aussi ce que tu disais, genre on est passé il y a 30 ans d'une, on va dire, lutte des classes, un dialogue social, et aussi de voir l'absence d'ambiguïté sur cette question-là. Ils sont très heureux d'être travailleurs, ils sont très heureux d'accompagner le productivisme, ils sont très compagnés d'accompagner la société du capital, etc. Et ils veulent pas en discuter de ça, quoi. Enfin, il y a aussi, ils sont pas clivants en fait dans cette réalité-là, et ils veulent simplement garder et du confort et des choses, mais ils ne sont pas là pour interroger le fond du problème, on va dire. Et toujours face à la prédation, je dirais, en fait, et de l'industrie, et de la technique, et donc voilà, du capital sur le monde, sur les consciences, sur les individus, les sensibilités, ce genre de choses.
En tout cas, moi, mon avis personnel sur la question, c'est que les formes syndicales telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont effectivement plus appropriées à la forme du travail, et c'est aussi pour ça que leur résistance face à ces ordonnances, comme face à la loi travail, elle est aussi pas très entendue, quoi. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent, qui ont des vies sacrément compliquées et qui se retrouvent pas du tout dans ces formes syndicales qui prônent la stabilité, l'emploi à vie, tout ça, qui sont des choses qui moi par exemple me fait horreur, quoi. Je voudrais pas travailler dans une entreprise qui produirait de la merde pour toute la vie dans un bon petit CDI, quoi. Je me sens beaucoup plus proche d'emploi à la limite précaire où voilà, je bosse pendant 4 mois, je pars, je reviens. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de notre génération, et qu'il y a un vrai travail à faire de comprendre comment on peut construire des luttes sur le monde du travail, ça, ouais, à travers ça. Et à cet égard, il y a quand même cette initiative du Front Social qui peut être intéressante, quoi. Qui est, on invite tout le monde à aller se renseigner, on va pas pouvoir en dire grand-chose aujourd'hui, mais on reviendra dessus, qui est cette tentative de militants, de syndicalistes, entre autres de syndicalistes de Solidaires, de la CGT, de se regrouper et de faire une base de lutte qui ne concerne pas seulement les travailleurs ou alors un domaine précis, mais qui soit transversal avec des précaires, des chômeurs, n'importe qui, et qui soit voilà, un front et non pas un parti ou un syndicat.
Tu trouves des infos où là-dessus?
Ouais. Bah, je pense que dès que tu tapes Front Social n'importe où, ouais, sur Internet, tu tombes dessus parce que c'est quand même assez bien renseigné.
Quoi, ils ont une page machin, enfin,
sur Facebook, ils ont des pages relais, ouais, et je sais pas, j'imagine qu'ils ont un site, oui, je connais pas ça. Mais voilà, on pourra en dire plus dans les émissions qui viennent, parce que c'est sûr qu'on va entendre parler d'eux dans les mois qui viennent, mais c'est quand même une proposition intéressante. Comme Front Social, comme Front Commun sur la question du travail.
C'est une recomposition en fait d'éléments un peu genre qui sont en clivage avec leur propre syndicat aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont des déçus, en fait. Et ce que tu disais, c'est pas du tout en raccord avec la réalité de beaucoup de gens qui vivent le travail maintenant, clairement autrement à travers le précariat, quoi.
Alors, on va écouter Guili Guili Goulag.
Ouais,
et puis ensuite, on revient et on vous parle de Marcel Campion, le roi des forains.
Gilly Gilly Goulag.
Ouais, avec cette chanson incroyable qui s'appelle Armada dépenaillée de Gibbon Cendré.
C'est bizarre comme nom, Gilly Gilly Goulag. Enfin, c'est marrant dans la bouche, mais.
Ça doit pas être cool.
Ouais, c'est cool, moi, je trouve. J'aime bien. Voilà, pas le goulag, mais je
le chatoiement du goulag.
Le Gilly Gilly Goulag, c'est un peu chelou, quoi.
Ouais, 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 dans la bouche.
Ce serait un centre de vacances, en fait, non, c'est pas ça.
Ouais, peut-être. Peut-être. Bon, on a parlé du 12 septembre et de la défection de Force Ouvrière, des syndicats, de tout ça. Et moi, je voulais parler de Marcel Campion.
Oui.
Marcel Campion, le roi des forains, qui vient de faire un appel incroyable, qui vient d'appeler tous les forains de France à venir participer le 12 septembre, en tête, dans le cortège de tête, à se joindre aux anarchistes, aux bonnets rouges, aux syndicalistes. Enfin voilà, on lira son appel dans deux secondes. Assez incroyable. Moi, j'ai un peu fait des recherches sur qui c'est ce Marcel Campion, parce qu'à vrai dire, quand j'ai lu cet appel, qui était sur lundi matin, j'y ai pas cru. J'ai cru que c'était un peu une blague. Ce Marcel Campion, roi des forains, qui appelle à revenir rejoindre les anarchistes.
Ouais, je trouve ça un roi peu... des forains est reconnu tel, quoi. C'est aussi ça qui est trop marrant.
Oui, ouais, c'est sûr. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Alors voilà, on peut écouter Marcel Campion qui se présente lui-même. C'est des vidéos que j'ai trouvées sur Internet, qui nous raconte qui il est et qu'est-ce qu'il anime. Voilà, on écoute.
Alors moi, Marcel Campion, je suis un homme de la fête, on va dire. J'ai toujours vécu dans ce métier, la fête foraine surtout, avec des animations, des manèges. Et voilà, j'ai un parcours qui est un peu particulier, un peu atypique.
Oui.
Je n'avais pas de parents, je suis né, on va dire, dans la rue. Et dans des familles d'accueil où je ne me suis pas trop plu, je me suis sauvé dès que j'ai eu 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je suis dans la rue. J'y suis toujours, mais c'est un peu plus confortable. Et à l'époque, je dormais dans les voitures, dans les camions, en dessous, avec le froid, et j'essayais des petits boulots.
D'accord.
Et puis, mon parcours a suivi vers 17-18 ans, j'ai réussi à monter une toute petite baraque pour faire des frites, éplucher des patates. J'ai fait ça pendant quelques temps, en grossissant mon affaire. Et puis après, j'ai réussi à acheter un manège avec des circonstances un petit peu évolutives. Il faut vouloir bosser. Et puis la vie a fait que 60 ans plus tard, et ben voilà, ça se passe pas trop mal. J'ai la Grande Roue qui est la Concorde, j'organise des gros événements sur Paris et même ailleurs. Et puis voilà, le parcours est ainsi fait.
La Foire du Trône, la fête à Mouillé.
Alors la Foire du Trône, je l'ai gérée pendant une cinquantaine d'années. Elle n'était pas à moi, je ne suis pas propriétaire de la Foire du Trône. C'est 300 forains, c'est un espace de 10 hectares. Mais c'est quelque chose où je suis arrivé très tôt et j'ai pu expliquer aux forains comment mieux s'organiser. Déjà pour ne pas se faire virer, parce que vous savez que l'évolution des villes avec en même temps des mouvements d'éjection, on va dire, tente à pousser les fêtes foraines hors de la ville. Bon, j'ai fait des comités de résistance à travers la France. Bon, la Foire du Trône, c'est un sujet, parce qu'à trois reprises, elle a failli disparaître. À trois reprises, je suis monté au créneau avec des fois des mouvements de forains, c'est important. Et puis, je l'ai fait souvent dans plusieurs villes de France, où moi, je n'exerçais pas particulièrement. Bon, la Foire du Trône, j'ai pu la gérer pendant une cinquantaine d'années et la faire reconnaître. Je crois que c'est devenu, c'était déjà un monument, la Foire du Trône, mais je crois que c'est devenu quelque chose dont on ne peut plus toucher, quoique. Et puis après, tout le monde trouve que c'est beau. La preuve, c'est qu'après, tout le monde veut s'en accaparer.
Exactement.
Et ça, c'est le système normal de la vie, où tous les bons à rien essayent de prendre les idées de ceux qui en ont. Mais voilà, il suffit de faire de la résistance, donc je suis un résistant.
Donc, est-ce plus difficile à Paris?
Non, c'est pareil partout. Toutes les grandes villes. Dans les années 80, toutes les grandes villes avaient le principe que toutes les places de fête allaient devenir des parkings, donc il fallait mettre les forains à l'extérieur. Donc, il a fallu faire des batailles importantes. J'ai fait des batailles à Nancy, à Nice, à Lille, à Brest, à Rennes. Enfin, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin chaque fois que les forains ont eu besoin de moi. Je n'exerçais pas spécialement dans ces foires-là, mais j'allais au-devant. Et on m'appelle le roi des forains ou le président des forains. Je suis président d'une petite association qui gère les Tuileries, c'est tout. Et je suis roi que de mon affaire.
Oui.
C'est tout.
Voilà, Marcel Campion.
Bah dis donc.
Ouais.
Bah quoi, il est un peu marrant, non?
Ah ouais, il est marrant, ouais. Le roi qui monte au créneau.
Moi qui monte au créneau. Oui.
Ouais. J'avais un autre extrait à vous passer, mais en fait, c'est plutôt inaudible, alors on va se l'épargner. Mais c'est pas grave, j'avais prévu le coup. Je vous ai quand même sélectionné sa meilleure punchline du deuxième extrait qu'on peut écouter.
Allez.
Nous, on dit des élites parce qu'on est polis. Moi, je dirais que c'est plutôt de la merde parce que c'est pas des gens qui pensent normalement.
Ouais, on n'entend rien.
Alors, c'est vraiment bien.
Je vous le refais, il dit oui, tous ces gens-là là, qui nous dirigent ça. Et il dit, on les appelle les élites parce qu'on est polis, mais moi, je les appelle de la merde. Voilà.
Okay,
parce qu'ils ne pensent pas normalement.
C'est un entrepreneur un peu sympathique. c'est ça.
Ouais. Oui, parce qu'après, il dit parce qu'il pense pas normalement. Non. Ils ne créent rien du tout, ces gens-là. Ah, ils sont de la tuition.
Les bons à rien. En fait, c'était ça, c'est assez
rigolo. Les bons à rien.
Alors Marcel Campion, on le trouve sympathique, puis là, son appel, il est chouette. Mais dans la vie, on ne sait pas vraiment si on serait pote avec lui. Hein, parce que dans l'autre extrait que je vous passe pas, il arrête pas de dire, oui, voilà, le gouvernement, il veut, ils aiment les assistés, ils veulent faire plus d'assistés. Parce que dès qu'on bosse, bah, on a des barrières dans les roues, etc. Du coup, c'est un peu
entrepreneur libéral.
Un bon gros gars, entrepreneur.
Ça fleure bon, en fait, la méritocratie, ce genre de choses.
Bah, le travail, quoi. Ouais. Le travail. Mais moi, c'est des choses qui me touchent aussi, quoi. Le type, il dit, bon, bah, voilà, nous, on bosse comme des merdes, on se prend des milliards de normes dans la gueule qui nous font fermer nos fêtes foraines pour rien. Enfin, t'arrives assez bien à imaginer, tu vois, la fête foraine, le bordel que c'est. Et puis, il y a une vidéo où on voyait ça, les types de l'URSSAF qui débarquent pour les contrôler, les milliards de normes de sécurité qui viennent parce que plan Vigipirate, parce que machin. Et voilà, et les types, le but, c'est de les virer de la ville, quoi, ou d'en faire un truc. Voilà. Il disait aussi, en fait, on va voir dans son appel, mais il dit aussi d'autres choses, quoi, mais qui sont intéressantes là-dessus, quoi.
Alors, on lit son appel. On va lire son appel. qui est assez fou. Très sympathique, on va dire, déjà. Alors, fête foraine et lutte finale. Les forains bloquent Paris, Lyon, Marseille et Le Havre. J'ai passé ma vie à affronter et à défaire la fatalité. Enfant, je les croisais souvent sous les traits des éducateurs zélés qui voulaient me placer dans telle ou telle institution répressive pour m'apprendre à subir en silence la vie de pauvre à laquelle ils me destinaient. Plus tard, sous les traits des policiers zélés qui voulaient me chasser du mètre carré de ville que j'occupais pour gagner ma vie au jour le jour. Puis sous les traits des fonctionnaires qui voulaient rogner mes ailes au nom des règlements qui avaient eu raison des leurs. À chaque fois, je me suis battu, non pas pour devenir riche, mais pour rester libre. Si j'ai lutté, c'est parce que j'étais libre. Si je suis libre, c'est parce que j'ai lutté. Aujourd'hui, cela seul compte à mes yeux de patriarche. Quant au fait que pour un ancien pauvre, je sois devenu scandaleusement riche, je n'y vois que l'heureuse rançon d'une vue aventureuse. Rien de plus, et rien de moins qu'une bonne fortune, dont je ne conçois ni fierté ni honte, et qui m'accompagne sur la route en dépit des innombrables contrôles fiscaux et suspicions éditoriales qui me valent sa présence. C'est que dans ce pays de richesse a toujours été l'apanage des grands. Grande famille nationale d'hier, grande entreprise multinationale d'aujourd'hui. L'argent est toujours respectable dans l'ombre d'un arbre généalogique ou d'un organigramme international. Il ne l'est jamais quand il a les traits grossiers d'un pupille de la nation devenu le fils de ses œuvres. Parce qu'il réussit, le forain est appelé roi par ceux qui rêvent de le déchoir. Il est même appelé parrain quand il a le malheur d'être resté fidèle à ses amis d'enfance qui n'ont su s'enrichir que leur casier judiciaire. Parce qu'il se paie sur ses recettes en liasses de billets dépareillés. Il est dit sulfureux, comme si c'était le pauvre qui faisait puer, par son seul contact, le noble argent dont les honnêtes gens disent qu'il n'a pas d'odeur.
Ouais, on peut dire deux, trois trucs, mais rapidement, juste que les trucs auxquels il fait allusion, Marcel Campion, c'est qu'il a l'air d'avoir un petit pouvoir, quoi, dans le monde des forains, et du coup que l'État lui fait un peu la guerre en lui menant d'un milliard de contrôles fiscaux, un milliard de trucs pour essayer de capter si bon, bah, tout est vraiment en règle dans son monde. Et voilà, du coup, il s'élève un peu contre
ça. Et apparemment, c'est aussi en fonction de ses fréquentations, tu sais. Il parle de ses amis d'enfance qui ont su s'enrichir de leur casier judiciaire.
Bah, c'est vrai qu'il a, sur les vidéos, quand tu le vois dans la foire, tu as vraiment l'impression que non, c'est le parrain, de la foire. Les types, ils ont un problème, ils l'appellent.
C'est lui qui règle tout. Quoi.
Dans il dit qu'il est patriarche.
Il dit qu'il est patriarche sans aucun... Et avec fierté.
Ça sent un peu les lois de la nature que lui seul incarne.
Les lois du clan, c'est ça. Alors,
on continue. Moi, j'aime beaucoup cet appel, malgré tout ce qu'on dit. Je trouve qu'il a une belle plume et puis qu'il écrit bien, même si ça pue un peu le libéralisme
paternaliste.
Aujourd'hui, la fatalité a le visage des grands groupes et des hauts fonctionnaires qui s'entendent pour étendre le domaine du spectacle. Les premiers veulent conquérir les arts populaires pour en extraire de nouvelles marges à distribuer aux actionnaires. Les seconds veulent faire plaisir aux premiers desquels dépend la suite de leur carrière et dont par ailleurs ils épousent souvent la vision du monde. Les uns imposent des appels d'offres complexes pour installer le moindre manège, et les seconds les remportent grâce à leurs armées d'avocats et de conseils. Les uns interdisent l'usage d'argent liquide sous prétexte de lutte contre le blanchiment et les seconds étendent le règne de l'argent immatériel grâce auquel ils peuvent défiscaliser en toute tranquillité. Les uns se font profession d'élever le peuple et les autres de le traire. Tout cela va de soi, mais ne va pas de moi.
ne va pas de nous, les forains, et tous les travailleurs indépendants auxquels on propose de disparaître ou de rejoindre l'armée de réserve du capitalisme que constituent les travailleurs précaires. Depuis des siècles, les forains font des fêtes où le peuple est roi. Et voici que les grands capitaux s'intéressent à nos joies populaires, non pour leur permettre de grandir et de devenir potlatch, mais pour nous les confisquer avant de nous les revendre à prix fort. Je me battrai contre cette nouvelle injustice, non pas comme entrepreneur, que je suis devenu, mais comme le crasseux que j'ai toujours été. Dans cette lutte, je suis un forain parmi tous, un artisan parmi tous, un petit gars parmi tous. Je laisse ma fortune se défendre face à ceux qui lui en veulent. Je retourne dans la rue, j'apporte ma voix et mes poings dans la guerre sociale qui se prépare. Je sais pourquoi compter sur ceux des forains qui ont compris que la roue tourne non pas pour moi, mais pour chacun d'entre eux, que la roue tourne pour le peuple qui n'en finit pas de se faire confisquer le peu qui lui restait. À Paris, mais également à Lyon, à Marseille, au Havre et à Rouen, comme dans toutes les grandes villes où les arts populaires sont menacés, nous viendrons tels que nous sommes et avec ce que nous avons, nos grandes gueules, nos semi-remorques, nos cœurs en bandoulière et nos poings fermés depuis que le maire de Paris refuse de nous serrer la main. Nous deviendrons bien vivants pour défier les bien-pensants aux côtés des travailleurs et dire nos passarades à ceux qui veulent s'approprier jusqu'à la plus humble de nos libertés et garder la place que nous avons gagnée au cœur des grandes villes d'où les grands groupes anonymes, avec la complicité de l'État et des municipalités, cherchent à nous exproprier. Le jour où la merde vaudra de l'or, le cul des pauvres ne leur appartiendra plus, a écrit un Américain libre jusqu'au bout des ongles. Le temps est venu de défendre nos culs. Nous le ferons en première ligne de toutes les manifestations colère sociale, avec des syndicats, avec les insoumis, les bonnets rouges et les black blocs, les agriculteurs faillis et les anarchistes. Dans toutes les prochaines batailles de la guerre sociale en cours, les forains seront en première ligne. Marcel Campion, forain, pupille de la nation, fils de déporté.
Ouais, c'est beau, c'est grandiloquent, toi, c'est un chouette
ouais.
3, quoi.
Ouais.
Ça semble quand même être un... Non, ça n'a pas l'impression... Dans toutes les prochaines batailles de la guerre sociale en cours, ça fait vraiment langage de gens qui écrivent habituellement tout un tas de tracts, non ? Je sais pas. Ça semble vraiment.
Toi,
bizarre.
Tu penses que c'est une blague,
ah ouais,
c'est ça ?
Moi, je pense que c'est une blague, ouais.
Moi, je pense que c'est vrai.
Ah, c'est beau le doute.
Mais va voir des vidéos de Marcel Campion, il parle comme ça. Il a des expressions comme ça, quoi. Il disait, oui, il nous empêche. Ils s'en prennent à tous ceux qui ont la fureur de vivre. Il a des expressions comme ça dans les vidéos. Ouais, c'est beau ce qu'il dit et tout. Et puis il s'est défendu de ça parce que les gens l'ont attaqué un peu en disant mais c'est quoi ce texte situationniste qui paraît sur lundi matin et il a répondu je lis beaucoup y compris Guy Debord voilà.
Allez
je te jure
après que ça soit un lettré
encore une fois
c'est dire comme il vient de la rue le gars bon genre il faut pas lui en demander trop, il gagne de l'argent. Il
non,
pas
c'est pas ça,
quoi.
C'est pas ça ce
non,
qu'il
mais,
dit.
Non mais je sais.
Ça l'étonne juste qu'un type qui soit à la fois un gros patriarche et un type qui a plein de thunes et un entrepreneur, il écrive des choses qui nous fassent frémir nos cœurs de révolutionnaires, c'est ça.
Oui.
Qui semble si proche de tout un tas d'autres écritures qui nous sont propres. Mais c'est
parce que c'est peut-être bluffant.
C'est le terme la guerre sociale. Là, tu t'es dit.
Tout un tas de trucs, mais ouais, non, c'est chouette. Effectivement, c'est beau parce que ça, c'est écrit comme un peu un conte, quoi. On a l'impression
que
c'est un peu un grand conte contemporain, mais tu vois, t'as l'impression que tu vois effectivement le roi qui monte au créneau puis qui harangue comme ça le peuple en lui disant.
Ouais, c'est une forme un peu.
Bougez-vous le cul, les pauvres. Moi aussi, j'étais pauvre et je suis devenu roi grâce à vous.
Mais peut-être c'est parce qu'il est. Tu le trouves pas vraiment à sa place, quoi.
Ah, si, bah, je sais pas, non, mais c'est chouette.
Il est rangeant.
C'est ça parce que j'ai un merveilleux texte à propos de. De la place qu'on a dans la vie.
C'est vrai, exactement.
Et de ce que ça procure les manifestations. Ouais. Alors, je peux vous
Mais du coup, lui, il appelle quand même, juste pour finir, si j'ai bien compris, il appelle à venir.
Le 12 septembre, il appelle tous les forains à se ramener dans la rue et à bloquer les rues.
Et à supposer que.
Et à être à côté des anarchistes, des black blocs, et des syndicalistes et des bonnets rouges.
Des agriculteurs qui ont failli. Ouais.
Des agriculteurs faillis. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
En faillite.
Peut-être.
Voilà.
Trop fou. Ok, ben merci pour cette découverte de Marcel Campion. Ça donne envie effectivement d'aller le rencontrer.
Merci Marcel Campion.
Peut-être on pourrait l'inviter un peu ici.
Grave.
Bon, il a l'air quand même d'être un gros.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si on fera le poids quand on trouvera qu'il dira de la merde. Je sais pas.
Il s'en fout peut-être un peu de nous, quoi. C'est sûr.
Oui, aussi ça. Quoi.
Sa grande roue sur la place de la Concorde, ça en jette quoi.
Il y a un aspect de la répression qui est rarement interrogé et qui est pourtant la base de toute logique autoritaire. C'est l'idée de la place que chacun doit tenir. Savoir rester à sa place, dans l'espace comme dans la hiérarchie, est ce qui vous garantit la sécurité et qui n'est pas à sa place, l'a bien cherché. Il en va de même dans la lecture de classe de la société. C'est aux pauvres et aux exploités de se libérer, aux riches de conserver et défendre leurs privilèges. C'est ainsi que l'on passe à côté du caractère dynamique du rapport de domination, qui fait que le plus grand nombre des exploités, qui ne se rebellent pas et ne travaillent qu'à rendre leur vie semblable à celle de leur patron, se ménageant une existence aussi contre-révolutionnaire que ce dernier quand il fume son cigare assis dans un fauteuil en cuir. Désormais, s'accommoder de la place du patron ou de celle de l'esclave renforce de la même manière la domination en tant qu'être employé ou employeur signifie de nos jours un refus identique du conflit sous toutes ses formes. Aucune place de cette société n'est plus révolutionnaire par elle-même. La plèbe occupe la place des sans-place, et c'est la seule d'où l'on puisse se révolter. Se déplacer physiquement donne naturellement un puissant prétexte à la police, puisque l'on n'était effectivement pas à sa place quand on a été arrêté. Mais dans ces conditions, pourquoi ne pas se révolter sur place ? Pourquoi, au lieu de manifester, que l'on est également traité en étranger partout, ne manifeste-t-on pas que notre propre pays et notre propre quartier nous sont étrangers à nous et aux nôtres, que notre place n'est pas notre place ? Car nous ne voulons pas de celle que l'on nous alloue. Et c'est alors seulement que la ritournelle, notre patrie et le monde entier, retrouvera un sens.
Adresse à eux, en fait. Il nous a une petite définition de la plèbe. Tu peux nous le redire ? C'était pas mal.
Ah, pourquoi pas ?
Ouais.
Ouais. Je sais pas pourquoi.
Allez, ne fais pas ton timide. Raconte-nous la plèbe.
Ah ouais, parce que là, dans le texte, qu'on n'a pas franchement écouté quand tu le disais.
Mais... Ah bah bravo, merci quoi.
Ça, on ne dit pas normalement.
Non, mais c'est genre, là, je me rappelais de la définition en fait, tu sais, du plébéien. À la base, c'est vraiment donc, bah, justement celui qui n'a pas de place, en fait, celui qui n'a pas son mot à dire dans le monde de la politique, parce que dans la démocratie athénienne, c'était la majorité, enfin, c'était les puissants en fait, qui déterminaient, qui ordonnaient, donc en fin de compte, et donc.
Tout un tas de gens qui squattaient une assemblée,
oui, voilà, qui squattaient une assemblée, etc. Ouais. Et le plébéien, c'est celui qui est dehors, qui n'a pas de pouvoir politique, qui n'a aucune place, qui ne peut rien dire, mais par contre, qui au niveau du ton, en fait, se donne le droit d'avoir la même parole que les autres. C'était ça, en fait.
Qui est en défi, quoi.
Et qui est en défi, défi, qui en fait va risquer, en fait, genre il défie en fait les puissants alors qu'il n'a pas de pouvoir.
C'est voilà, juste voilà ça, la plèbe, quoi. C'est ça.
C'est la définition un peu.
Parce que le texte dit qu'il n'y a que depuis la plèbe qu'on peut se révolter. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je serais d'accord avec ça, mais.
Mais il dit, cas, il dit la plèbe occupe la place des sans place. Voilà. C'est la seule d'où l'on puisse se révolter.
Mmh. Ah oui.
Le fait de ne pas être à ta place. Quoi.
Voilà. Mmh. Et de ne pas être dans le compromis, en fin de compte, quoi que ce soit. Où, en fait, là, tu joues pas la reproduction sociale, etc.
Voilà, ce bout de texte, il était issu d'un texte qu'on peut retrouver aussi sur lundi matin qui s'appelle Que penser du Black Bloc, qui revenait sur. Qui a été publié au moment d'Hambourg cet été, les émeutes à Hambourg contre le G20.
Tout
voilà.
À fait.
Bon, sur ce 12 septembre, on ne dit rien de plus, qu'à part qu'on sera dans la rue le 12 Allez-y, septembre quoi. Et qu'on ouais. espère vous et y
on,
voir.
Voilà,
et...
c'est ça, on vous y attend.
Et voilà.
Exactement, et tu as fait une très belle transition, Ginette, par rapport à ce Hambourg G20, car il nous vient maintenant le moment de parler de cette répression féroce et très stratégique politiquement qui s'abat sur Freiburg, cette petite bourgade d'Allemagne, voilà, qui est juste à la frontière allemande, à une trentaine de kilomètres de la France, du côté de Belfort, là, vous voyez, dans l'est, là, le plein est. Et donc le 24 août dernier, s'est fait perquisitionner un endroit qui s'appelle le KTS, qui est un centre social type les tanneries à Dijon, l'espace autogéré des tanneries. Un vieux centre social qui a été conventionné, dealé, obtenu, négocié dans la ville de Haute-Lutte, et qui là s'est fait perquisitionner donc le 24 août, ainsi que quatre autres appartements qui sont faits donc évidemment retournés à la manière donc des braquages et des violations de domicile habituelles que se permet la police quand elle fait des perquisitions, surtout sur ce genre de population, si l'on peut dire, puisque c'est donc un centre social d'obédience plutôt d'extrême gauche, anarchiste, voilà, autonome, etc., avec toute la longue tradition et la longue histoire plutôt de l'autonomie allemande des années 70-80. Voilà, donc ils se sont fait perquisitionner parce que pendant le G20 de Hambourg, il y a donc le G20, c'est le regroupement de tout un tas de dignitaires de hauts pays, de très hauts pays, des plus hauts pays du monde, voilà, qui décident de tout un tas de sortes de choses, de l'ordre du monde des prochaines années, une espèce de planning, voilà, une gestion entre soi d'intérêts communs sur la marche du monde. Et ce G20 là était fortement perturbé par tout un tas de personnes, ma grand-mère comme la ménagère du coin, ou des écologistes radicaux français, enfin voilà, tout un tas de gens qui se sont pointés à Hambourg pour foutre le bordel, et je crois que le bordel a été assez bien foutu, et notamment Merkel.
Le gouvernement, ah oui, vas-y.
Voilà, c'est ça. Et le gouvernement s'est fait complètement tacler, mais peut-être tu as d'autres choses à dire. Parce que
non, j'allais dire qu'il y a des membres du gouvernement qui ont annoncé qu'il y aurait, que plus aucune ville allemande n'accueillerait un G20.
Parce que quand on leur a dit, mais pourquoi Hambourg ? Enfin, en fait, Hambourg, c'est quand même une place un peu forte pour tout le milieu autonome, anarchiste, etc. d'Allemagne. Et quand on a demandé à Merkel, la presse, les élus, les parlementaires, hein, tout le monde a demandé à Merkel, mais pourquoi Hambourg ? C'est un peu... Elle a dit, mais la démocratie, le G20, c'est la démocratie s'applique partout, donc voilà, on va faire ça en bois. Bon, donc ils se sont complètement mangés les dents, parce qu'effectivement, il y a eu tout un tas de gens qui sont venus, qui ont un peu ravagé la ville, enfin voilà, qui ont manifesté leur colère.
Des quartiers, deux quartiers.
Précisément deux quartiers, ouais. Tu veux en dire quelques mots ?
Ben, si j'ai bien compris l'histoire, c'est des quartiers, justement, en fait, plutôt flex. En fait, c'est que, ouais, vous imaginez, je ne sais plus combien au niveau du maintien de l'ordre, c'était démentiel, quoi, c'est 50 000 CRS qui ont été mobilisés rien que pour cadrer la ville. C'était juste gigantesque. Et ils ont, en fin de compte, ils ont délimité deux zones où il y avait la ville était complètement étanche, et donc il y avait deux zones dans la ville, deux quartiers qui étaient en fait dans lequel les manifestants, les gens qui étaient venus pouvaient agir.
D'accord. Bon, voilà. Donc en tout cas, ils se sont fait complètement dépasser. Là, ils se sont tapés sur les doigts, évidemment. Donc ça sert. Ça sert à notamment toute la frange de l'extrême droite allemande à gonfler ses rangs, notamment parce que là, en Allemagne, c'est le moment où il va se dérouler une élection parlementaire, et où le parti de Merkel est donc tente dans cette opération donc de perquisition à l'intention du milieu autonome d'extrême gauche et anarchiste allemand de ne pas laisser fuir tout un tas de clients électoraux qui seraient plus tentés d'aller voter pour l'extrême droite radicale allemande. Voilà, donc il y a eu une perquisition chez toutes ces personnes-là, donc le centre social, quatre appartements, parce que il y a un site internet IndyMedia en Allemagne qui a servi très fortement à relayer tout un tas d'appels, à donner des informations, à organiser aussi ce G20, enfin voilà, et qui là vient d'être donc ce site a été interdit, les serveurs ont été perquisitionnés et tout un tas d'appartements ont été aussi braqués, quoi, on subit des braquages, donc ils ont pris l'argent, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, enfin voilà, tout ce qu'ils trouvaient qui pouvait être susceptible d'alimenter leur fonds de commerce, voilà.
Et donc ils appellent à une manifestation, enfin ils appelaient à une manifestation hier.
Voilà, qui s'est déroulée hier.
Voilà, dont on pourra vous en dire plus la semaine prochaine, on peut chercher un peu ça.
On n'a pas toutes les informations, mais effectivement ils appelaient à une manifestation, donc voilà, qui avec un repas le midi, et puis après une manifestation à 19h dans la ville. Voilà, en présumant un peu que la police allait être là aussi, répondre fortement à cette menace et au maintien de l'ordre potentiel à tenir. Il y avait le matin aussi le ministre donc de l'Intérieur allemand qui venait à Freiburg faire état un peu de leur stratégie là.
Voilà. Donc ça a probablement été musclé, quoi. En fait.
Ouais, je pense, je sais pas, voilà, on n'a pas eu d'infos plus que ça, effectivement. Donc il y a tout un tas d'appels qui ont été passés à l'international et puis en Allemagne pour évidemment soutenir ce genre de médias type IndyMedia, qui sont des médias en fait qui servent à relayer aussi tout un tas d'informations, notamment antifascistes en Allemagne, au moment où se remet à vivre, enfin ou en tout cas vivre plus belle toute la frange radicale de l'extrême droite, des néo-nazis, etc. Et voilà le signe qui est envoyé par le gouvernement donc de droite Cato là de Merkel, c'est aussi un signe qui est presque à l'adresse de ces personnes-là qui seraient tentées par l'extrême droite de leur dire je sais pas comment dire, c'est pas qu'on vous protège, mais c'est d'une certaine manière on est on est avec vous, quoi. Quittez pas le bateau, on est avec vous. Et ça, c'est quand même un truc qui est un peu, enfin, qui est très fortement inquiétant, notamment parce que c'est quelque chose qui pourrait, à un moment, se produire aussi chez nous, en France. Bon, voilà. C'est pour cela qu'on voulait vous en parler.
On peut renvoyer tout le monde à deux textes qu'on peut trouver sur Paris Lutte Info, entre autres, mais j'imagine ailleurs, et qui sont les traductions des textes d'appel à venir hier. Et donc, voilà, des textes qui ont l'air de décortiquer bien pourquoi est-ce que c'est inquiétant ce qui se passe et qu'est-ce que ça signifie pour eux, quoi.
Heute hier und morgen dort und so weiter und so fort. Schöne Grüße.
Heute hier und morgen dort und so weiter und so fort. Schöne Grüße. Heute hier und morgen dort und so weiter und so fort. Schöne Grüße.
Voilà, nous on est prisonniers du studio, mais en ce moment même à Bar-le-Duc, il y a un rassemblement devant la gendarmerie de Bar-le-Duc, parce que le 15 août, lors d'une manifestation à Bure contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Et quand on dit le projet, on pourrait dire contre le projet en cours, enfin la construction
bien
en cours.
Bien avancé, quoi.
Puisque le fait de nous faire croire que c'est un projet fait partie de la stratégie
d'enfouissement.
Mmh. Voilà, donc c'est ce fameux laboratoire de recherche de l'ANDRA. Pour enfouir des déchets nucléaires à Bure.
Dans la Meuse, donc un Bure, c'est dans l'est de la France.
Mmh. Ouais, à 2h30 de Dijon, exactement. Mmh. Entre juste un peu vers Nancy, quoi. Ouais. Et ce laboratoire qui est en fait une construction en soi, qui commence pour enfouir des déchets. Il n'y a que trois sites, enfin là je ne suis pas absolument sûr de moi, mais je crois qu'il n'y a que trois sites d'enfouissement de déchets radioactifs au monde.
Bah en tout cas de ce type-là, parce qu'il y a tout un tas de zones, même en France, hein, d'enfouissement de déchets, mais qui sont plutôt sous des fines couches de terre, enfin fines, j'entends 5-10 mètres. Mais,
des déchets nucléaires.
Ouais, des déchets radioactifs. Bien sûr. Ouais. Il y a des communes qui sont payées, qui reçoivent de l'argent pour enfouir chez eux. Et là, le projet, c'est d'enfouir à plus de 500 mètres sous terre. Et ça, effectivement, il n'y en a que trois. Il y a trois endroits comme ça au monde. Il y en a un aux États-Unis.
Un autre. Les pays scandinaves.
Peut-être bien, je ne sais pas. Ouais.
Si,
et puis ce projet-là, donc en fait, qui est finalement, c'est la. Comment dire. C'est le bout de chaîne qui est absolument essentiel. Pour vendre ce type de modèle de production d'énergie, parce que sans ça, sans penser, enfin en tout cas sans apporter une espèce de solution factice finalement, hein, parce qu'on on enfouit des projets, mais des déchets en se disant bon peut-être ça marche, et puis ces déchets-là ils vont rester des milliers d'années sous terre, et sans ce maillon-là de la fin de la chaîne de la production nucléaire, sans dire qu'on se préoccupe un peu de qu'est-ce que vont devenir les déchets nucléaires, évidemment ça c'est un peu moins vendeur, quoi. Ouais. Ça marche un peu moins dans la stratégie marketing.
Parce que le but, c'est aussi tout ce qui est actuellement, vous savez, il y a un dépôt en fait à ciel ouvert à la Haye. Ouais, c'est ça, à la Hague, je veux dire, excusez-moi. Et en fait, c'est tout ça qu'ils vont transférer, quoi. Et c'est simplement.
Sur les déchets longue durée, les trucs les plus radioactifs.
Voilà, voilà, c'est ça. Il y a aussi les déchets radioactifs les plus hardcore, etc. Et c'est tout ce qu'ils vont. Et ils veulent débarrasser, ils vont faire place nette à la Hague. Et au fur et à mesure, comme ça, ça pourra se remplir et ainsi de suite.
Voilà, du coup, il y avait une manifestation contre ce projet, le 15 août, comme il y en a régulièrement. En fait, actualité qu'on couvre pas du tout ici, on n'entend pas assez parler à Dijon, mais il se passe vraiment plein de choses.
Bah, bien entendu.
Qu'on essaiera de relayer un peu mieux dans les mois qui viennent.
Il y a un mouvement de résistance qui s'est installé concrètement, bien, je pense, d'au moins depuis 2 ans, un peu à l'égal de ce qu'on
En fait, ça fait 15 ans que les gens luttent là-bas, mais ça fait bien 2-3 ans qu'on en entend beaucoup plus parler.
Où en fait, compte, c'est aussi. Tout un jeune mouvement qui vient. Ouais, il y a aussi ça, c'est aussi une pugnacité qu'il n'y avait peut-être pas par ailleurs, parce que les légalistes, on va dire, toutes les personnes qui ont cherché qui étaient en conflit avec le projet, qui étaient contre ce projet, qui voulaient passer par les voies légales, sont renvoyées dans les cordes. En fait, il y a des consultations, très bien, on discute, vous pouvez très bien avoir un avis sur la question, mais en fait, on s'en fout de votre avis. Donc c'est toujours la même chose, vous pouvez parler autant que vous voulez du sujet, de toute façon, il aura lieu. Donc, projet antidémocratique total. Et donc, y a eu une voie de radicalisation par voie de fait, quoi. C'est normal, on n'est pas entendu, etc. etc. Et donc, il y a aussi une occupation maintenant assez importante.
Ouais, quand on dit radicalisation, c'est toujours un peu gênant.
Oui, c'est vrai.
Le 15 août, les manifestations qui ont lieu depuis 2 ans, elles sont à l'image de celles du 15 août, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui essayent d'atteindre le laboratoire pour bloquer son avancement, etc., qui sont en général bloquées par la police très tôt, et qui sont bloquées à certains endroits, et il faut contourner la police pour essayer d'atteindre le laboratoire, ou alors lui faire peur pour qu'elle parte. Le 15 août, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, dans l'avancée du cortège, les policiers ont bloqué entièrement le cortège, et ensuite ils ont déployé des pluies de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogène, de canons à eau pour que les gens rentrent chez eux, comme c'est de plus en plus souvent le cas. Mais c'est une des manifestations les plus violentes qu'il y ait eu à Bure.
Récente.
Ouais. C'était une pure démonstration de force. Il faut dire aussi qu'il y a quelques temps, il y a eu des victoires. Enfin, en fait, il y a des victoires pour les opposants au projet qui sont avérés depuis tout un temps, depuis au moins 1 an. Là, il y a l'occupation d'un bois qui devait être rasé pour offrir la terre aux premiers travaux, les puits d'aération des galeries souterraines.
En fait, c'est sous ce bois-là en fait que est construit
Non, en fait, c'est sur une parcelle complètement tarée de.
Oui, c'est ça.
Mais le bois, en fait, sous ce bois-là, il devait, enfin, à la place, à cet endroit de bois-là, il devait y avoir une bouche d'aération des galeries. Mais uniquement, là, voilà, c'était une première descente que descendrait à creuser. Bon, voilà. Mais comme c'est le cas partout, hein, comme dans le Tave, dans le Val-de-Suce, c'est les mêmes, c'est ces descenderies-là qui deviendront des galeries, des bouches d'aération qui sont creusées en premier fond. Voilà. Mm-hmm. En tout cas, ce bois-là a été gagné de haute lutte. Les flics qui gardaient cet endroit se sont barrés. Juridiquement, le tribunal de Bar-le-Duc a donné le feu vert, enfin, en tout cas empêché plutôt que le bois soit rasé, puisque bon, voilà. Donc, il y a eu tout un tas de luttes et de victoires autour de ces luttes cette dernière année. Et je pense que j'imagine que là, la réponse des flics, du gouvernement, de la préfecture, etc., c'était une réponse super musclée pour affirmer là une défaite des gens qui sont en face, quoi. Et effectivement, au cours de cette manifestation là.
Il y a une trentaine de personnes qui ont été blessées, entre autres par des grenades assourdissantes et par des flashballs. Les flashballs, tout le monde voit à peu près ce que c'est, j'imagine. Les grenades assourdissantes, c'est des grenades de type de celles qui ont tué Rémi Fraisse. Les charges sont un peu moins lourdes, mais.
Donc c'est des grenades lacrymogènes, mais instantanées. Donc elles tombent, elles explosent.
C'est pas lacrymogène.
C'est pas lacrymogène.
Non, pas du tout.
L'église,
Non.
Ah,
non,
bah peut-être alors.
Ah, si.
Non, les grenades lacrymogènes instantanées, c'est autre chose. Non, le. Je crois,
ouais. Ah si, la Glyph 4, là ce qui justement, parce qu'en fait on y a un manifestant qui en a pris une directement sur le pied, et en fait là voilà quoi, il est handicapé quoi à vie, c'est assez dramatique, enfin c'est quelque chose assez, et il a vu voilà son pied se faire exploser, et à ce jour on sait pas s'il va se faire amputer de ses orteils. On en est là, et voilà, c'est parce que en fait le truc qui lui est tombé sur le pied, donc la Glyph, c'est une grenade en fait lacrymogène instantanée. Elle a une petite charge pour pouvoir exploser instantanément. Il faut de la TNT.
Enfin, un petit 25 grammes.
Bah, c'est 25 grammes, c'est une petite charge selon en fait les critères.
Et assourdissante parce que ça fait 170 décibels à l'explosion. Le plan étant de coucher les gens, c'est-à-dire de perturber l'oreille interne puis de faire tomber les gens.
Ouais. Voilà.
Et donc il a pris ça sur le pied, et donc il a passé un certain nombre de temps à l'hôpital, à se faire des reconstitutions de tissus, des greffes, etc. Enfin, tout un tas de choses des plus sympathiques. Et ce dimanche-là, aujourd'hui, il y a donc un appel de par cette personne.
Ouais. Et des associations en fait, qui le soutiennent.
Du coin aussi,
ouais. Des associations antinucléaires du coin.
Et qui sont dans la lutte autour de Bure, à venir devant la gendarmerie de Bar-le-Duc.
Voilà, Robin, la personne dont on parlait juste avant, et qui est dijonnais, en fait, que certainement plein de gens d'entre vous ont croisé à Dijon, il nous dit « J'appelle toutes les personnes que mon histoire touche à me rejoindre dès ma sortie de l'hôpital de Nancy pour se rassembler symboliquement devant la gendarmerie de Bar-le-Duc pour demander l'interdiction des grenades assourdissantes et lutter contre les violences policières. Le rassemblement aura lieu dimanche 10 septembre à 14h. J'en appelle à toutes les personnes qui me connaissent, tous les mutilés et tous les proches de ceux qui sont partis trop tôt. Venez avec des pancartes, écrivez-y ce qui vous tient à cœur. Venez avec vos amis, vos collègues, vos voisins, vos parents, vos frères et sœurs. À bientôt, courage, Robin. »
Voilà, donc là c'est en train de se dérouler. Et
on en parlera la semaine prochaine, peut-être qu'on arrivera, enfin c'est sûr, on vous en dira beaucoup plus la semaine prochaine. On vous quitte sur ces mauvaises paroles. Voilà, comme d'habitude, les luttes, c'est plein d'espoir et plein d'horreur.
Un petit, avant de quand même de finir, genre un petit genre le 12, donc c'est-à-dire mardi prochain, il y a la réouverture de la carrotterie, et le 15, on va avoir le délibéré.
C'est quoi la carrotterie?
Non, on n'a pas du tout le temps d'expliquer ce que c'est que la carrotterie.
La carrotterie, bah, c'est la petite cantine populaire qui est ouverte depuis à peu près 8 mois.
Rue d'Auxonne. À Dijon.
Voilà, on vous laisse. À la semaine prochaine, 16h. On vous laisse avec les trucs. Et puis, vous pouvez retrouver l'émission sur tvnr.noblox.org.
Salut.
Voilà.
singende